Au nom de quoi faisons-nous les choses que nous faisons ? L'apôtre Pierre déclare que lui et son équipe guérissent les malades et qu'ils le font au nom de Jésus de Nazareth. Le seul nom donné par les humains, ajoute Pierre, par lequel, comme vous l'avez entendu par la voix de Claire, nous devions être sauvés. Mais nous, les choses que nous faisons, j'évoque ici les choses faites avec un minimum d'intentionnalité, par exemple, choisir un livre à lire ou à offrir, ou aller chercher telle race de chien, ou tel lieu de villégiature, ou s'engager dans telle ou telle association, au nom de quoi toutes ces choses les faisons-nous ? Pour préparer cette prédication, je me suis testé moi-même et me suis forcé à me justifier. Au nom de quoi, voire de qui fais-je les choses ? Je vous avoue que la première conséquence de cette démarche a été l'arrivée d'un brouillard. Un brouillard épais. Avant, je faisais les choses en certitude qu'elles venaient de quelque part, qu'elles avaient un sens, une direction, qu'elles étaient la conséquence d'une cause, d'une logique que je n'aurais eu aucun mal à déterminer si toutefois on me l'avait demandé. Or voilà que je m'en faisais la requête. C'est un peu comme si du haut d'une montagne, celle de la salutation, vous l'avez entendu, je m'étais mis à vouloir observer la vallée dans laquelle je passe mon existence. Et voilà que je commençais à localiser les divers endroits du village tout en bas où j'habite. L'officine de la pharmacienne, l'église, le centre culturel, la décharge, le cimetière. Et que, tout à coup, en essayant d'encore mieux voir, un épais brouillard blanc, un gros nuage bas, m'empêchait de continuer l'exercice. Que m'avait-il pris d'aller sur ce sommet ? Ensuite, bien résolu à vouloir que ce brouillard se dissipe, j'ai continué la démarche. J'isolais les séquences d'actions que je commettais selon le contexte, qu'il soit amical, le contexte, professionnel ou mixte. Et je me demandais, au nom de quoi toutes ces actions, je les faisais. Je repérais alors beaucoup d'habitudes. Il m'a alors fallu me demander d'où était venue la première poussée qui avait inauguré une séquence d'habitudes. Cette répétition maîtrisée, peut-être automatisée ou simplement devenue fonctionnelle. Et là, le brouillard a commencé un peu à se dissiper. Ma première révélation, dont je ne savais pas encore qu'elle n'était qu'une illusion partielle, a été de penser que la plupart des choses que je les faisais au nom de moi-même, ou mieux, au nom d'une certaine image que j'ai de moi-même, et encore plus précisément, au nom d'une image de moi-même dont je pensais qu'elle devait être bonne pour être approuvée, voire reconnue par les autres. Pour sommairement ne pas être éjecté du clan, qui est aussi ma maison sociale, dont je n'ai pas envie d'inaugurer le bûcher. J'aurais pu m'arrêter là. Mais j'ai continué ce procès en justification, et sachez bien, frères et sœurs, qui êtes peut-être étonnés, que je ne parle pas de moi en fait. Je tente de parler avec vous et de vous inviter aussi à ce débat avec vous-même et à vous demander au nom de quoi les choses que vous faites, vous les faites. J'ai continué. Je me suis alors aperçu dans la lignée de ma première observation. Je fais certaines choses au nom d'un désir de me conformer à l'image que les autres attendent de moi, en particulier d'un point de vue fonctionnel. Eh bien, je me suis aussi aperçu que beaucoup de choses, je les faisais au nom d'un autre singulier et pas uniquement social, un autre peut-être décédé depuis longtemps, peut-être encore présent, non pas simplement pour lui plaire à cet autre, mais à cause d'une éventuelle dette fictive ou réelle que j'aurais contractée et qu'il me faudrait sempiternellement rembourser. J'écoutais récemment l'interview d'un prix Nobel en physiologie et médecine qui a beaucoup travaillé sur l'immunité acquise à partir d'études sur les insectes et qui a avoué aux journalistes qu'en fait, il aurait préféré la littérature au départ, mais que son père, un entomologiste, l'en avait empêché. Cette élucidation de ce qui n'est qu'une démarche pathétique, un peu aussi comme « tu seras un homme, mon fils », une assignation, ou « tu hériteras de ma charge notariale », m'avait permis de continuer. Et quelle ne fut pas ma surprise d'apercevoir qu'un nom N-O-M, certes flou, sans forme, mais qu'une forme de nom commençait à apparaître. Ce nom N-O-M, cette cause était beaucoup plus profonde que ce que j'avais préalablement aperçu. Car il y en avait une de cause. Il y avait quelque chose. Il semblerait qu'il y avait un nom, N-O-M, qui ferait que je ne suis pas simplement un être absurde et répétitif, ou qu'un être enfermé dans la croyance en son ego, ou qu'un pantin social, ou qu'un débiteur perpétuel, débiteur d'une dette ou débiteur de paroles qui ne sont pas toutes siennes. Certes, à ce moment-là de mon travail, et pour continuer la métaphore, en quittant la montagne pour retourner dans la vallée et dans cette vallée m'approcher d'une rivière, ce nom, N-O-M, confus, n'était encore qu'une ombre, une ombre qui serpentait au fond de cette rivière et qui tournait autour de mon fil de pêche. Une grosse carpe, encore muette comme une carpe. Une raison, un nom, une cause dont mes actions les plus intentionnelles seraient les conséquences. Quelque chose qui me rappelait qu'il n'était pas tout à fait absurde de vivre. Quelque chose bien au-delà du vide, bien au-delà d'un ego dont je ressens tellement la futilité, comme disait le psaume 62 tout à l'heure. Quelque chose qui serpente au fond, mais dont je sens la danse et l'appel, hors de tous mes moments de dérapage. Laissons entrer les gens. Bienvenue au culte. Et l'appel, dont je ressens l'appel lors de tous mes moments de dérapage, d'esquive, de fuite, de méprise, d'abandon et de renoncement. À ce moment-là de la prédication, je ne vais pas vous dire ce que j'ai commencé à percevoir dans ce brouillard en train de se dissiper. Je ne le ferai pas car jusqu'ici j'ai voulu vous présenter une démarche et j'ai juste tenté d'être didactique et avec une emphase, je dirais, universelle. Si je disais maintenant ce que j'ai commencé d'apercevoir, je vous raconterais ma vie et ce n'est pas ce qu'un prédicateur doit faire, même s'il fait croire qu'il le fait. Je vais simplement vous dire que ce quelque chose, cette carpe muette comme une carpe, au fond de cette rivière, qui un jour se jettera ou sera jeté dans la mer, c'est l'appel d'une nécessité plus profonde, plus ancienne, plus collective que ce que j'appelle mes choix raisonnés, ceux qui font que, bon gré, mal gré, j'assume ma fonctionnalité dans un monde social qui ne comprend collectivement que les fonctions et méprise ou évite à tout prix l'esprit, le charme et les nuances. Donc, je suspends ici la description de ma recherche et je fais un saut, évidemment un saut de carpe, et je me rappelle que la Bible a mal à partir avec le nom Noé. Celui dont tout le monde parle dans la Bible, sauf le livre d'Esther. Vérifiez. Soit celui dont tout le monde parle est appelé par un surnom, soit par un nom dont la prononciation est un tabou, soit est appelé, et c'est le comble de l'ironie, le nom. En hébreu, cela se dit « Shem ». Et cela a permis de désigner, à tort ou à raison d'ailleurs, les Sémites ou les Chémites. Je me rappelle aussi que cet humain à peine produit, à peine sorti, selon le livre de la Genèse, est convié à nommer tout ce qui l'entoure. Ce qui nous informe sur cette manie du nom que nous avons. Il y a des noms partout. Et même tous les individus ont droit à des noms. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Alors que les animaux, à part domestiqués, et encore, regardez les chats, ou tous les bubules qui croupissent dans leurs aquariums, eh bien, les animaux se débrouillent très bien et se reconnaissent mutuellement sans avoir besoin de ce subterfuge, de cette astuce bien humaine qui a quelques avantages et énormément d'inconvénients. Je dirais que la nomination d'un individu est d'une stupidité sans nom. Revenons à Pierre, l'apôtre, qui se justifie de guérir des malades par le nom Noé de Jésus de Nazareth. Il révèle ainsi que, selon lui, ce nom primordial a pris une forme, et a pris une forme compréhensible, audible, celle de l'expression « Jésus de Nazareth », qu'il revendique comme la cause dont ses actions, prétend-il, est la conséquence. Ainsi, si nous suivions l'exemple de Pierre, nous devrions être tous convaincus, par exemple, si nous sommes venus ici ce matin, que c'est au nom de Jésus de Nazareth. Tous convaincus que si nous agissons à travers le diaconat pour les plus démunis, c'est au nom de Jésus de Nazareth. Tous convaincus que si nous sommes engagés dans la vie de l'Église, c'est au nom de Jésus de Nazareth. Tous convaincus, peut-être que tout dans notre existence, nos choix, nos amours et nos métiers, pourquoi pas, se fait au nom de Jésus de Nazareth. Et je fais cette parenthèse aussi pour dire que tous les bébés sont magnifiquement accueillis dans ce temple et ils ont le droit de parler. Je n'ai pas pu le dire la dernière fois, donc je le dis. Or, en sommes-nous tous convaincus ? Je ne peux pas parler à votre place, mais je ne pense pas qu'immédiatement vous formuleriez les raisons, déjà de votre présence ici, de cette façon. Oh certes, beaucoup de personnes revendiquent haut et fort que tout leur comportement se produit au nom de Jésus de Nazareth, mais je crois, sans vouloir parler à sa place, qu'elle ne l'aurait pas souhaité la personne de Jésus de Nazareth avant qu'elle ne devienne une formule ou un formulaire dans une confession de foi. Et surtout, je n'en crois pas un mot. Je ne crois pas, et par définition, ceux qui brandissent la cause, le nom qui les déterminerait. C'est soit un pur mensonge opportuniste, soit une faiblesse intellectuelle. Car il suffit de sincèrement se poser un peu, de prendre du champ et de faire un petit effort pour gravir un sommet pour accéder à un promontoire, pour voir rapidement le brouillard recouvrir sa vallée, brouillard quasiment invisible quand on reste au fond de sa vallée. Mais ce que je crois en revanche, c'est que pour un chrétien, cette revendication du nom de Jésus de Nazareth, quand elle n'est pas qu'un simple fétichisme, hein, ou qu'une façon de manipuler les gens en leur faisant croire que tout est simple, est un viatique parmi d'autres, un chemin vers une origine bien plus vaste et profonde, plus insaisissable qu'une simple identité formelle. Un passage vers ce que la Bible appelle le nom, N-O-M, qui est toujours, je vous le rappelle, le comble de l'ironie théologique. Et que dans cette prédication, j'ai figuré comme une carpe en eau profonde, une carpe mystérieuse, celle qui, vous le savez, veut toujours remonter le courant du fleuve. Figuration facile, je le concède, de ce qui me guide, alors que je prétendais vouloir la pêcher, mais qui me rappelle que je suis là uniquement parce que l'univers a bien voulu que j'existe et que j'avais donc quelque chose à y faire et à le faire bien. Je vais donc continuer à remonter la rivière dans ma vallée en suivant ma carpe. Amen.